La Bible révèle que la fin de toutes choses est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ.
Je vous salue fraternellement dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le titre de la présentation de ce matin est « Prêcher la parole ». Mais avant d'entrer dans la matière, nous allons invoquer la présence de notre Dieu. Notre Dieu, notre Père céleste, nous venons à toi en cet instant, car nous aspirons à recevoir une bénédiction. Et cette bénédiction pourrait ne pas être celle à laquelle nous nous attendons. Mais Père, c'est toi qui sais ce qui est bon pour nous. Et ce, alors même que nous pourrions ne pas réaliser que cela est bon pour nous. Mais c'est toi qui sais véritablement ce qui est bon pour nous, car tu es notre Dieu, notre Créateur. Et c'est toi aussi qui es au-dessus de tous les esprits. Et tu connais, tu sais ce qu'il y a dans nos cœurs, dans nos esprits. Et tu sais comment nous prémunir d'une perte éternelle. Nous te demandons alors ta bénédiction durant cette heure. Que les cœurs soient disposés, que les puissances des ténèbres qui œuvrent pour perdre les âmes soient neutralisées. Et que les cœurs soient touchés. Et que par-dessus tout, Père, ton serviteur puisse être complètement effacé, afin que ta gloire soit manifestée. Et que ton nom soit craint, respecté, révéré. Et qu'en Israël, on sache qu'il y a un Dieu vivant. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour le pardon et la purification de nos péchés. Amen. Le texte de base de cette présentation est 2 Timothée 4, verset 2, mais nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 5, où il est dit « Je t'en conjure donc devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, l'heure de son apparition et de son règne. Prêche la parole, insiste en temps et hors de temps, reprends, censure, exhorte en toute patience et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne souffriront point la saine doctrine, mais où désireux d'entendre des choses agréables, ils s'amasseront des docteurs selon leur convoitise et fermeront l'oreille à la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois vigilant en toutes choses, endure les afflictions, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis complètement ton ministère. Paul donna ici, à Timothée, ses dernières instructions. Il donna ses dernières instructions à son jeune collègue, Timothée. Il lui demanda, au verset 2, de prêcher la parole, d'insister en temps et hors de temps, ou dans la version du second, en toute occasion, favorable ou non. Mais en temps et hors de temps est une signification qui est assez proche du texte original. Et aussi de reprendre, de censurer. Censurer ici a pour signification de désapprouver, de condamner en fait. Non pas les personnes, mais les comportements. D'exhorter en toute patience et en instruisant. Et cela rendrait complet son ministère d'évangéliste, lequel consiste à prêcher l'évangile. Ce qui n'a rien à voir avec le fait de prêcher des fables, en fait. Le message de l'évangéliste consiste en la prédication de la parole de Dieu. Il est le représentant de Dieu et délivre le message de Dieu. Il prêche la saine doctrine et pas des théories sensationnelles pour attirer l'attention ou les suppositions fantaisistes afin de satisfaire des curiosités oiseuses. Et pourquoi? Pourquoi devait-il prêcher la parole en temps et hors de temps? Reprendre, censurer et exhorter. Tout simplement car, à partir du verset 3, s'il tarde à le faire, il serait alors trop tard. Étant donné que viendra un temps où les hommes ne souffriront point la saine doctrine, mais où, désireux d'entendre des choses agréables, ils s'amasseront des docteurs selon leur convoitise et fermeront l'oreille à la vérité et se tourneront vers des fables. Or, à la lumière du verset 1, les prédicateurs, et nous comprenons que les prédicateurs qui auront laissé des âmes s'égarer faute de reproches, de censure et d'exhortation seront tout comme les âmes qu'ils auront eux-mêmes égarées, trouvées trop légers lors du jugement et donc perdues pour l'éternité. C'est ce que nous confirme la Messagerie du Seigneur dans The Review and Herald, September 28, 1897, paragraphe 9. Paul mentionne certains ministres qui tordent les Écritures. Mais quand ils comparaîtront devant le juge de toute la terre pour répondre de leurs œuvres, ils souhaiteront n'avoir jamais manié la parole de Dieu de manière trompeuse. Les fidèles ministres du Seigneur suivront l'injonction donnée à Timothée, insistent en temps et hors de temps. Ils saisiront les opportunités en temps à leur rendez-vous et hors de temps lorsqu'ils seront dans des lieux privés au bord du chemin ou dans des familles où ils se rendront. Notez ici l'application que la messagère fait de temps et hors de temps. Autrement dit, lorsqu'on a prévu de le faire, mais aussi lorsque cela n'a pas été prévu qu'on le fasse. Et une autre déclaration mérite également notre attention. C'est celle qui se trouve dans Sketches from the Life of Paul à la page 320, paragraphe 3. Cette charge solennelle envers un homme aussi zélé et fidèle que Timothée est un témoignage catégorique de la grande importance et de la responsabilité du ministre évangélique. L'apôtre convoque Timothée pour ainsi dire devant la barre de la justice infinie et de la manière la plus impressionnante, le charge de prêcher la parole, non pas les coutumes ou les paroles des hommes, mais la parole de Dieu, la prêcher en insistant en temps et hors de temps chaque fois qu'une opportunité se présente, aux heures indiquées et occasionnellement, aux grandes congrégations, aux cercles privés, sur le chemin, au coin du feu, devant des amis et des ennemis, à une personne aussi bien qu'à plusieurs, qu'il puisse parler en toute sécurité ou soit exposé à des épreuves et périls, à des reproches et à des pertes. Et si vous parlez l'anglais, nous vous invitons à comparer et à lire aussi à Manuscript 3 de l'année 1887, paragraphe 2. Notez ici que il est à nouveau parlé de temps et hors de temps. Autrement dit, lorsqu'une opportunité se présente, c'est-à-dire occasionnellement, pour hors de temps, mais en temps, aux heures indiquées, là où est-ce qu'on a un rendez-vous, là où est-ce que c'est, on doit parler de ça. Et elle poursuit en disant, aux grandes congrégations, au cercle privé. Lorsqu'il y a du monde, lorsqu'on est en public. Et la suite nous le montre, à une personne aussi bien qu'à plusieurs. Tous les écrits que nous venons de lire dans la Bible, mais aussi dans l'esprit de prophétie, sont tous inspirés par l'amour. En effet, dans Lévitique 19, verset 17, les Israélites avaient reçu le commandement suivant. « Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu reprendras ton prochain, et tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. » Remarquez ce qu'il est dit ici. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, mais tu reprendras ton prochain. L'expression de l'amour c'est également aussi dans le fait de reprendre. Autrement dit, reprendre, c'est une expression de l'amour. Pourvu qu'elle soit faite avec douceur, bien évidemment. Mais notez-le. Reprendre ici, c'est une expression de l'amour. Puisqu'on nous dit que tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Donc, si je ne dois pas y m'offrir dans mon cœur, je dois avoir de l'amour pour lui. Et donc, c'est par amour pour lui que je vais le reprendre. Cela nous fait penser, et vous en conviendrez, au message que Christ adresse à Laodicée. Et donc, du zèle et repens-toi. Moi, je châtie et je reprends tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. C'est le même esprit, mes amis. Mais il n'y a pas que par amour pour l'autre. Nous-mêmes aussi, nous avons quelque chose à gagner dans cette affaire. En effet, dans Ézéchiel, chapitre 33, versets 6 à 9, nous lisons « Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, en sorte que le peuple ne se tienne pas sur ses gardes et que l'épée vienne enlever la vie à quelqu'un d'entre eux, celui-ci aura été surpris à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle pour la maison d'Israël. Écoute la parole de ma bouche et avertis-la de ma part. Lorsque je dis aux méchants, méchant, tu mourras certainement. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra à cause de son iniquité. mais je te redemanderai son sang. Si au contraire, tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie, sans qu'il s'en détourne, il mourra à cause de son iniquité, mais toi, tu sauveras ta vie. Les sentinelles sont des ouvriers qui sont postés sur la muraille d'une ville et qui font le guet, c'est-à-dire qu'ils regardent à l'horizon de manière à pouvoir avertir ceux qui sont dans la ville. Ce sont les protecteurs. Ils protègent la ville. Et il y a deux manières dont on peut le voir. La première application peut être pour ceux qui ont la charge du troupeau. Les pasteurs, les ministres, ils doivent avertir, car ils consultent la parole de Dieu. Ils doivent avertir le peuple, l'Église, des dangers. Mais cela peut bien évidemment faire allusion à chacun d'entre nous. Nous sommes tous, à un degré ou à un autre, des sentinelles. Puisque nous sommes les gardiens de notre frère. Tout du moins, nous devons l'être. Si ce n'est pas le cas. Mais notez une chose ici. C'est que dans l'image, la sentinelle est postée sous la muraille. Tout le monde la voit. Il y a un temps où il me faut reprendre quelqu'un en privé. Et ce temps, c'est lorsque la personne a commis un péché ou une erreur en privé. Ce qui est différent du temps où le péché ou l'erreur a été commise ou dite en public. Et là, il me faut répondre en tant que sentinelle, en public. En effet, en 1 Timothée 5, versets 20 et 21, nous lisons « Reprends devant tous ceux qui pêchent, afin que les autres aussi aient de la crainte. Je te conjure devant Dieu, le Seigneur, Jésus-Christ et les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire avec partialité. » Notez ici l'instruction qui est donnée de reprendre devant tous. Et il faut le faire sans prévention, mes amis, de manière impartiale. Le faire dans la justice. Et ce, dans un esprit de douceur et d'amour, pour sauver l'âme du prochain. Mais il faut le faire en public, quand cela nécessite que cela soit fait en public, parce que c'est ce que Dieu demande. Et Paul a accompli ce qu'il a lui-même enseigné à Timothée. En effet, en Galates chapitre 2, versets 11 à 14, il nous est dit, « Or, quand Pierre, dit Paul, or, quand Pierre vint à Antioche, je lui résistais en face, parce qu'il méritait d'être repris. Car avant que quelques personnes fussent venues de la part de Jacques, il mangeait avec les gentils. Mais dès qu'ils furent arrivés, il s'en retira et s'en sépara, craignant ceux de la circoncision. » Et avec lui, les autres Juifs dissimulèrent aussi, de sorte que Barnabas même fut entraîné dans leur dissimulation. Mais quand je vis qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Pierre, en présence de tous, « Si toi qui es Juif, tu vis comme les gentils et non comme les Juifs, pourquoi obliges-tu les gentils à judaïser. » Notez que ici, Pierre usait de duplicité. Et ce, en public. À tel point qu'il y en avait d'autres qui avaient été attirés derrière lui, qui avaient été entraînés, dont Barnabas. Et Paul, inspiré, sous l'inspiration divine, il n'est pas allé le reprendre en privé, en fait. Car ça aurait été de l'infidélité, à ce moment-là, de le reprendre en privé, puisqu'il avait fait cela en public. Il l'a repris en public, de manière à ce que les autres, comme dit le Seigneur, puissent éprouver de la crainte. Arrivé à ce stade-là, on pourrait se dire, mais un péché, c'est quelque chose. Mais un enseignement dont on a à redire, c'est autre chose. Que dit la parole de Dieu? Que dit l'Éternel? Lisons 1 Timothée 1, versets 8 à 11. Or, nous savons que la loi est bonne pour celui qui en fait un usage légitime et qui sait que la loi a été établie, non pas pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, pour les impies et les pécheurs, pour les gens sans religion et les profanes, pour les meurtriers de père et de mère et les homicides, pour les fornicateurs, les sodomites, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément au glorieux Évangile du Dieu bienheureux dont la dispensation m'a été confiée. Notez ici que tout ce qui est contraire à la saine doctrine tombe sous le coup de la loi, en fait. Ça veut dire que du moment qu'un enseignement ne s'accorde pas avec la vérité de l'Évangile, il est condamnable par la loi, en fait, et est mis au même rang qu'un péché. Vous pourriez ne pas, maintenant, voir ce que je suis en train de dire. En quoi pourriez-vous me dire un enseignement, un faux enseignement, un enseignement erroné est un péché? Tout simplement parce que l'enseignement erroné est une transgression du 9e commandement. En effet, en 1 Corinthiens 15, versets 14 et 15, il est dit « Et si Christ n'est point ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins de Dieu, car nous avons rendu ce témoignage à l'égard de Dieu, qu'il a ressuscité Christ, lequel il n'a point ressuscité si les morts ne ressuscitent point. » dit l'apôtre Paul. Le faux enseignement, l'hérésie, les fausses doctrines, qu'elles soient libérales ou fanatiques, sont des faux témoignages. Et dites en public, elles doivent être reprises en public. Et les serviteurs de Dieu le feront sans ménagement, en toute douceur et avec impartialité. Car il faut que Dieu soit reconnu vrai, quitte à ce que les hommes soient reconnus menteurs. Nous est-il dit en Romains 3, verset 4, lisons, « Mais que Dieu soit reconnu véritable et tout homme menteur. » Si pour que Dieu soit reconnu véritable, je dois être reconnaître menteur, qu'il en soit ainsi. Si je me trompe à un endroit, qu'on me reprenne en public, de manière à ce que Dieu soit reconnu véritable et qu'il n'y ait personne qui soit égaré. Et parfois, le reproche, bien que formellement exprimé avec douceur, peut au fond être sévère. Mais là encore, c'est Dieu qui le demande. En effet, en Tite 1, versets 10 à 14, il y a, en effet, principalement parmi ceux de la circoncision, beaucoup de gens indisciplinés, de vains discoureurs et d'imposteurs auxquels il faut fermer la bouche, qui pervertissent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qui ne convient pas. Quelqu'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Les Crétois sont toujours menteurs, des méchantes bêtes, des ventres paresseux. » Ce témoignage est véritable. Pour cette raison, reprends-les sévèrement, afin qu'ils deviennent saints dans la foi et ne s'attachent pas aux fables judaïques ni aux ordonnances des hommes qui se détournent de la vérité. Ces paroles, mes amis, sont dures à entendre. Elles sont dures à entendre. Et pourtant, il nous est dit que le témoignage est véritable. C'est la vérité. Et la vérité, bien que dure à entendre, doit être annoncée, mes amis. Les serviteurs de Dieu, les fidèles sentinelles, les gardiens du troupeau doivent fermer la bouche à ceux qui sont indisciplinés, à ceux qui se croient permis, ils se croient tout permis, devrais-je dire. Avec cette catégorie de personnes, surtout lorsqu'elles ont été prévenues, il faut agir sans ménagement et leur fermer la bouche devant tout le monde. Parce que c'est moi qui le demande? Non. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Arrivé à ce stade-là, nous pourrions ne pas voir l'amour de Jésus dans cette affaire. Nous pourrions nous dire que Jésus n'a rien à voir avec une manière d'agir, avec une telle manière d'agir. En êtes-vous sûr? Lisons ensemble. Matthieu 23, verset 33. Jésus déclara, « Serpent, race de vipère, comment éviterez-vous le châtiment de la géhenne? » À qui a-t-il déclaré ça? À des pharisiens hypocrites. Jésus les a repris sévèrement, sans ménagement, sans partialité, devant tous. Et il leur a dit les choses. Jésus, le Fils de Dieu, celui qui a dit à la femme, « Va et ne pêche plus », a repris sévèrement des imposteurs, des hypocrites. Il y a un temps, mes amis, où le fond de notre pensée doit s'exprimer avec des paroles tendres, mais aussi un temps où le fond de notre pensée, qui, je précise, doit être la pensée de Dieu, très précisément, doit s'exprimer avec des paroles sévères. Et l'esprit qui animait Jésus était le même qui animait Jean-Baptiste. En effet, en Matthieu 3, versets 6 à 8, nous lisons « Et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en confessant leurs péchés. Mais quand il vit venir à son baptême plusieurs des pharisiens et des sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits convenables à la repentance. » Que se passait-il? Que s'est-il passé à ce moment-là pour que Jean-Baptiste puisse dire une telle chose? Lisons ensemble un témoignage inspiré que l'on trouve dans un ouvrage intitulé « Jésus-Christ », page 86, paragraphe 1 à 3. Chef et rabbin, soldats, publicains et paysans accouraient pour entendre le prophète. En un premier moment, l'avertissement solennel de Dieu jeta l'alarme dans les esprits. Nombreux furent ceux qui se repentirent et furent baptisés. Des personnes de tout rang se soumettaient aux exigences du Baptiste dans l'espoir de participer au royaume annoncé. Beaucoup de scribes et pharisiens venaient confesser leurs péchés et demander le baptême. Ils s'étaient fait passer pour meilleurs que les autres hommes et avaient entretenu une haute opinion de leur piété au sein du peuple. Maintenant, les secrets de leur vie coupable étaient dévoilés. Mais le Saint-Esprit fit comprendre à Jean que plusieurs de ces hommes n'avaient pas une réelle conviction du péché. Ils étaient opportunistes. Ils pensaient que l'amitié du prophète leur assurerait la faveur du prince qui allait venir. En recevant le baptême des mains de ce jeune instructeur populaire, ils comptaient accroître leur influence auprès du peuple. Jean les reçut avec des paroles mordantes. « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et n'imaginez pas pouvoir dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. » Notez ici que il y avait de ceux qui avaient été hautains, orgueilleux. Hypocrites. Et qui s'étaient repentis. Mais il y avait une autre classe qui venait. Et ils demandaient le baptême à Jean. Mais qui avait-il dans leur cœur? Reprenons. Ils étaient opportunistes. Est-il dit. Ils pensaient que l'amitié du prophète leur assurerait la faveur du prince qui allait venir. En recevant le baptême des mains de ce jeune instructeur populaire, ils comptaient accroître leur influence auprès du peuple. Autrement dit, en fait, ils demandaient le baptême tout simplement pour avoir une influence auprès du peuple. Mais leur démarche n'était pas pure. Leur cœur était impur, rempli de méchanceté, de mensonges, de médisances. Et Jean a vu tout cela. Et Jean était un jeune homme. Il était un jeune homme. Et ces hommes qui venaient à lui, on peut le comprendre, puisque l'emphase est mise sur sa jeunesse. C'était des hommes à barbe blanche, plus âgés. Et ils pensaient qu'en venant auprès de ce jeune homme avec leur barbe blanche, sans doute, pouvons-nous imaginer, ça allait changer quelque chose. Mes amis, quand vous êtes animés de l'esprit de la puissance d'Élie comme Jean-Baptiste, la barbe blanche n'a aucune influence sur vous. Et la vérité, c'est la vérité. Race de vipère, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Déclara le prophète. J'aimerais que nous puissions considérer un témoignage qui cadre avec notre propos. Témoignage pour l'Église, volume 1. Page 382, paragraphe 1 à 396, paragraphe 1. L'apôtre Paul dit clairement que les expériences des Israélites dans le désert nous ont été rapportées pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. 1 Corinthiens 10, verset 11. Nous ne pensons pas que les risques que nous courons sont moindres que ceux des Hébreux. Au contraire, nous serons tentés d'être jaloux de nos frères et de murmurer contre eux. Il y aura aussi des révoltes ouvertes, comme il y en eut dans le peuple d'Israël. Il existera toujours une tendance à se rebeller contre ceux qui dénoncent au peuple de Dieu ses péchés. C'est tout? Non, elle dit aussi ses erreurs. Faut-il alors que ceux-ci se taisent? Si c'était le cas, notre situation ne serait pas meilleure que celle des nombreuses dénominations, où l'on a peur de toucher du doigt les erreurs et les péchés répandus parmi les fidèles. Je vais m'arrêter ici, parce que, comme j'aime à dire, il y a de la nourriture là pour nous. Les dangers qui étaient ceux des Hébreux dans le désert, Israël ancien, sont les mêmes pour nous aujourd'hui, mes amis. Il n'y a pas de différence. Jalousie. Je suis jaloux d'un frère ou d'une sœur. Murmure, mais aussi révolte. Cela va toujours exister, mes amis. Et il existera toujours des gens qui seront mécontents parce qu'il y aura un Élie, un Jean-Baptiste dans le camp pour dénoncer les choses. Mais si il n'y a pas d'Élie, il n'y a pas de Jean-Baptiste dans le camp, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être comme les autres dénominations. Or, les autres dénominations sont quoi, d'après la prophétie? Babylone. S'il n'y a pas de Jean-Baptiste dans le camp, c'est la corruption, mes amis. Poursuivons. Ceux que Dieu a choisis pour être des ministres de justice ont la responsabilité solennelle de dénoncer les péchés du peuple de Dieu. Paul recommandait à Tite, dit ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité. Que personne ne te méprise. Tite 2, verset 15. Il existe toujours des gens pour mépriser celui qui ose stigmatiser le péché. Mais il y a des circonstances où celui-ci doit être dénoncé. Paul conseille à Tite de reprendre sévèrement une certaine catégorie de fidèles, afin qu'ils aient une foi solide. Et j'aimerais m'arrêter ici. Notez l'objectif. Ce n'est pas d'écraser la personne, puisque ce n'est pas l'individu qu'on dénonce, mais c'est de montrer le péché pour que la personne puisse réaliser que ça, c'est condamné par Dieu, en fait, de manière à ce qu'elle puisse se repentir et revenir. Si cela n'est pas fait, lorsque cela mérite d'être fait, eh bien alors, on conduit la personne à sa perte. On l'encourage dans sa rébellion, dans ses murmures, dans son péché. C'est pour le bien de la personne. Poursuivons. Des hommes et des femmes qui, avec leurs divers tempéraments, s'assemblent pour faire partie de l'Église, ont évidemment des traits de caractère particuliers et des défauts. Notez cela. Il y a des traits particuliers de caractère. Il y a des défauts. Continuons. Si ces défauts s'affirment, il sera nécessaire de dénoncer les fautes qui en résulteront. Si donc ceux qui occupent des postes de confiance ne censuraient et ne reprenait jamais personne, on se trouverait bientôt dans une situation difficile qui déshonorerait Dieu. Mais comment les reproches doivent-ils être adressés? Écoutons la réponse de l'apôtre, avec toute douceur et en instruisant. 2 Timothée 4, verset 2. Il faut rappeler le principe à ceux qui les transgressent. Je reprends. Il faut rappeler les principes à ceux qui les transgressent et ne jamais considérer avec indifférence les erreurs du peuple de Dieu. Encore une fois, notez qu'il y a péché et aussi erreur. Les deux, mes amis, doivent être reprises. Poursuivons. Il y aura toujours des hommes et des femmes qui mépriseront les reproches et s'élèveront contre eux, car il n'est pas agréable d'entendre parler de ses torts. Je vais m'arrêter ici. Vous posez une question. Cela voudrait-il dire que ceux qui n'apprécient pas les prédications où on dénonce la vérité seraient concernés par les prédications? Poursuivons. Dans presque chaque cas où la répréhension est nécessaire, il y aura des gens à qui échappera entièrement le fait que l'Esprit du Seigneur a été attristé et que la cause de Dieu a été couverte d'opprobre. Ces gens s'apitoient sous le sort de ceux qui ont mérité d'être repris parce que les sentiments intimes ont été froissés. Notez, il y en a qui vont s'apitoyer sous le sort de ceux qui ont été repris. Ah, il a été repris devant tout le monde. Ah, il a été repris. Ah, le pasteur était trop dur avec lui. Donc du coup, le frère s'est retiré. C'est pas bien, pasteur. Tu t'es trompé. Repends-toi, pasteur. Repends-toi. Poursuivons la lecture. Mais il s'agit d'une sympathie non sanctifiée et qui fait partager aux sympathisants la culpabilité en question. Tous ceux qui sympathisent avec celui qui a été repris en public sont aussi coupables que lui, dit l'esprit de prophétie. Neuf fois sur dix, si la personne dont la conduite a été censurée avait été laissée dans le sentiment de ses torts, elle serait arrivée à les apercevoir et aurait pu s'en corriger. 9 fois sur 10, est-il dit. Si on laissait la personne, il est dit qu'elle pourrait s'en apercevoir et se repentir. Mais cela ne peut pas arriver si elle a des soutiens. Des gens qui la soutiennent dans son erreur. Mais des gens au caractère non sanctifié se sont interposés. Donc, les gens qui s'interposent sont des gens au caractère non sanctifié. D'accord. Ils ont mal interprété les intentions de l'auteur de la censure et la nature même de cette censure. En sympathisant avec le coupable, il l'amène à croire qu'il a été en réalité abusé. Et ainsi, il se révolte contre celui qui n'a pas accompli son devoir. Ceux qui, fidèlement, s'acquittent de la tâche désagréable qui consiste à dénoncer au peuple de Dieu ses péchés parce qu'ils sentent leur responsabilité à cet égard, recevront la bénédiction du Seigneur. Dieu exige de ses serviteurs qu'ils soient toujours ponctuels dans l'accomplissement de sa volonté. L'apôtre écrit à Timothée en lui parlant des devoirs de sa charge, « Prêche la parole !» Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. 2 Timothée 4, verset 2. Lorsque quelqu'un a été repris en public pour un péché ou une erreur, et que cela a été fait en toute douceur, et qu'il n'y a rien à redire sur la douceur de la reprise. Mais que ce qui pose problème, c'est qu'on ait repris la personne en public. Ceux qui doivent se remettre en question dans ce cas sont l'auteur du péché ou de l'erreur et ses sympathisants, et non le censeur, non celui qui a repris. Pourquoi? Parce que ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Il est écrit. Tout ce qui s'oppose à ça vient de Satan. Les Hébreux n'étaient pas disposés à obéir aux ordres et à respecter les interdictions du Seigneur. Ils voulaient tout simplement suivre leur propre voie, aller où les conduisait leur propre volonté et n'être soumis qu'au contrôle de leur jugement personnel. S'ils avaient pu agir à leur guise, ils ne se seraient jamais plaints de Moïse, mais ils supportaient mal la contrainte. Est-ce pareil aujourd'hui? Parce qu'il y a un Moïse dans le camp que Dieu a assigné comme charge de mener le troupeau dans la Canaan céleste et que ce Moïse ne laisse pas faire le peuple. C'est pour cela qu'on lui en veut? Quand on est comme ça, c'est qu'on ne supporte pas la contrainte. Or, la contrainte vient de Dieu. C'est Dieu qui dirige les choses en réalité. On voit un homme devant, à la tête du peuple, mais en réalité, c'est Dieu qui conduit, en fait. Pourvu que l'homme parle et agisse selon Dieu. Et à ce moment-là, on ne peut rien dire, en fait. On ne peut pas dire que c'est un homme qui a décidé, en fait. C'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui a agi. C'est pour ça qu'ils ont péché contre le Fils de Dieu qui était dans la colonne lorsqu'ils se rebellaient contre Moïse, en fait. Dieu voudrait que son peuple soit discipliné, uni dans l'action et dans la façon de comprendre les choses et de juger. Voilà quel est le désir de Dieu. Il veut que son peuple soit discipliné. Première chose, la discipline. Dans le peuple de Dieu, dans l'Église de Dieu, il y a une organisation qui n'est pas basée sur le manuel d'Église, de la conférence générale, mais sur la parole de Dieu. Lesquels sont appuyés et aussi parfois développés par l'esprit de prophétie. Il y a une discipline, en fait. Il y a un ordre. Je ne fais pas ce que je veux. On doit être unis dans l'action et dans la façon de comprendre les choses et de juger. Nous devons avoir la même pensée, mes amis. Ça veut dire que même si je vais employer des mots différents, mais au final, la pensée que j'émets est la même. C'est ce que Dieu veut, mes amis. Or, parfois, nous entendons des gens dire « Oui, mais tu peux penser comme ça, moi je pense comme ça, chacun fait a le droit de faire comme il veut et compagnie. » Qui inspire ces gens-là à dire ça? Dites-moi, qui inspire ces gens-là à dire ça? L'Éternel, le Dieu vivant? Ce n'est pas l'Éternel, le Dieu vivant. C'est les puissances des ténèbres qui inspirent quelqu'un à dire ça. Mais pour en arriver là, il y a beaucoup à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que quelqu'un qui parle comme ça, qui a les paroles du serpent sur sa bouche, doit faire? Eh bien, la messagère dit « Le cœur charnel doit être subjugué et transformé. » Ça veut dire que je suis charnel en fait. Et je ne suis pas encore régénéré en fait. J'ai peut-être été baptisé. Ou je veux peut-être me faire baptiser. Mais en fait, je suis encore charnel en fait. Et j'ai besoin de transformation. Il sera nécessaire de reprendre et d'exhorter, et dans certains cas, de le faire avec sévérité. Ce n'est pas tout le temps la sévérité. C'est dans certains cas. Et on a vu lesquels cas. Lorsqu'on a affaire à des imposteurs, des gens indisciplinés, il faut le faire avec sévérité. Et que personne ne dise à la sentinelle, tu agis mal. Que personne ne dise cela. Quand cela est fait dans ces conditions-là, que personne ne s'aventure à dire, sentinelle, tu agis mal. Où est l'amour de Jésus dans ça? Car ce serait du pur aveuglement que d'agir ainsi. Nous entendons dire, « Oh, je suis si sensible. Je ne puis supporter le moindre blâme. » Notez les paroles. « Je suis si sensible. Je ne puis supporter le moindre blâme. » Autrement dit, il faut tenir compte de ma sensibilité. Si, poursuit-elle, ceux qui, patients, ainsi, voyaient clair en eux-mêmes, donc ceux qui ont dit cette phrase-là, « Oh, je suis sensible », ils diraient, « J'aime tellement faire ma propre volonté, je suis si plein de suffisance et d'orgueil que je ne supporte pas que l'on me fasse la moindre suggestion. » Je ne veux pas être repris. Je réclame le droit d'exercer indépendamment mon jugement. Je crois et je dis ce qui me plaît. Voilà en réalité ce qu'il y a dans le cœur. Ce qu'il y a dans mon cœur. Et je vais parler pour moi. Et ce qu'il y a aussi dans ton cœur. Lorsque on met en avant sa sensibilité pour ne pas accepter le reproche. Je reprends. J'aime tellement faire ma propre volonté. Je suis si plein de suffisance et d'orgueil que je ne supporte pas que l'on me fasse la moindre suggestion. Je ne veux pas être repris. Je réclame le droit d'exercer indépendamment mon jugement. Je crois et je dis ce qui me plaît. Ces paroles qui sont, nous dit l'esprit de prophétie, dans le cœur de celles et ceux qui jouent la carte de la sensibilité pour justifier la non-acceptation d'une censure, d'un reproche public. En fait, ces paroles n'ont rien de chrétien, en fait. Elles sont tout simplement la manifestation du « moi », en fait. C'est le « moi ». Il n'y a pas de conversion, en fait. Jésus n'est pas là-dedans, en fait. Et mes amis, cela est déplorable, véritablement. Car nous aspirons tous à voir Jésus en nous, se manifester en nous. Et il n'est pas trop tard. Le Seigneur ne veut pas que nous perdions toute personnalité. Mais un homme est-il en mesure de juger jusqu'à quel point il peut conserver son indépendance? Je suis indépendant. Mais jusqu'où suis-je indépendant? Jusqu'où suis-je indépendant? N'oubliez pas que Dieu a une église sur terre. Et que l'indépendance va forcément avoir des limites quand on parle d'église. Et que je ne peux pas faire ce que je veux, en fait. Parce que si je fais ce que je veux, je vais corrompre le peuple de Dieu, en fait. Par mon comportement égoïste. Pierre exhorte, poursuivons, ses frères en ces termes. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Quand on parle des anciens ici, c'est presbyterios. C'est-à-dire, ce n'est pas les anciens aux cheveux blancs. Ceux qui ont la charge de l'œuvre, en fait. Ceux qui ont été consacrés, en fait. Les ministres, en fait. D'accord? Les anciens. Ceux qui ont la charge du troupeau, très précisément. OK? Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 1 Pierre 5, verset 5. L'apôtre Paul, de son côté, recommande aux chrétiens de Philippe l'unité et l'humilité. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous-même les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Philippiens 2, versets 1 à 5. Ailleurs, Paul dit encore « Que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur ». Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez plein d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Romains 12, versets 9 et 10. Enfin, il dit aux Éphésiens, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Éphésiens 5, verset 21. L'histoire des Israélites nous enseigne que le plus grand danger que courent les hommes, c'est de se tromper eux-mêmes. Bien des gens ne comprennent pas qu'ils sont pécheurs par nature et ont besoin de recevoir la grâce du pardon. Ils marchent dans les ténèbres, sujets aux tentations et exposés à la plus grande des désillusions. Ils sont loin de Dieu, mais très satisfaits d'eux-mêmes, alors que leur conduite est odieuse aux yeux du Seigneur. De telles personnes s'opposeront toujours aux directives de l'Esprit de Dieu, et en particulier aux reproches. Quand on s'oppose aux reproches, c'est qu'on s'oppose à l'Esprit de Dieu. Quand ces reproches sont faits en bonne et due forme, conformément aux directives données par la parole de Dieu, que l'on sache en Israël que les individus qui se plaignent des reproches sont en train de s'opposer au Saint-Esprit de Dieu. Que Israël le sache aujourd'hui. Elle ne désire pas, poursuit-on, on poursuit, elle ne désire pas qu'on les trouble. Parfois, elles sont saisies par des peurs égoïstes ou prennent de bonnes résolutions. L'angoisse s'empare d'elles. Elles en arrivent à certaines convictions, mais leur expérience religieuse n'est jamais très profonde, car elles n'ont pas bâti leur maison sur le rocher des siècles. Pour de telles personnes, la lumière n'apparaîtra jamais comme une nécessité. Elles ne voient pas toute l'horreur du péché parce qu'elles ne marchent pas dans la lumière comme le Christ lui-même est dans la lumière. Arrêtons-nous ici. Parfois, est-il dit, elles sont saisies par des peurs. Les individus là qui s'opposent aux reproches et qui, de ce fait, s'opposent à l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Mais ces peurs sont égoïstes, en fait. Ces peurs sont égoïstes, dit l'Esprit de prophétie. L'angoisse même s'empare d'elle. Et elle en arrive à certaines convictions. Mais que se passe-t-il dans ces cas-là? Eh bien, leur expérience religieuse n'est jamais très profonde. Toutes sortes d'enseignements sur sa bouche, en fait. On peut connaître bien beaucoup de sujets, en fait, savoir le présenter, savoir toutes sortes de choses. Je peux le faire, mais est-ce que mon expérience religieuse est profonde? L'esprit de prophétie dit que non, en fait. Elle dit que non. Pour de telles personnes, et on va jusqu'à dire, la lumière n'apparaîtra jamais comme une nécessité. Elle ne voit pas toute l'horreur du péché. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce qu'elle ne marche pas dans la lumière comme le Christ est lui-même dans la lumière. Nous ne faisons que souligner, mes amis, ce que dit l'Esprit de prophétie. Il n'y a pas d'invention humaine ici. Poursuivons mon dernier paragraphe. Il y a une autre classe de gens qui ont été inondés de lumière et spécialement convaincus de la vérité de l'Évangile. Ils ont fait l'expérience authentique de l'œuvre du Saint-Esprit en eux. Mais les nombreuses tentations de Satan ont fini par avoir raison d'eux. Aussi n'apprécient-ils plus la lumière que Dieu leur a donnée et ne cèdent-ils plus aux avertissements et aux reproches de l'Esprit. Ils sont sous la condamnation, mais ne se soumettent pas au témoignage qui est porté contre eux. Qu'est-ce que ce dernier paragraphe veut dire? Tout simplement qu'il y en a de ceux qui ont été convaincus par la vérité de l'Évangile. Tout simplement comme c'est marqué. La lumière est arrivée sur eux. Ils ont été convaincus. Et ils ont même eu une expérience, vraiment. L'Esprit de Dieu a agi dans leur cœur à un moment. C'était vraiment sincère, authentique. Mais il y a eu des tentations. Il y a eu des tentations. Tentation de murmurer, de jalouser, tentation de se révolter, toutes sortes de choses qu'on pourrait mettre sous la table. Et l'ennemi a fini par avoir raison, en fait. L'ennemi a fini par avoir raison. Et donc, de ce fait, ils ne vont plus apprécier la lumière. Ils ne sont plus dans la joie, en fait, avec le peuple de Dieu. La teneur du message de Jean-Baptiste était notamment la suivante. Matthieu 3, versets 1 et 2. En ce temps-là, Jean-Baptiste vint prêchant dans le désert de Judée et disant, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Notez, mes amis, qu'il s'agit d'un message de repentance. Le message qui devait préparer la première venue de Jésus. Ce n'était pas un message qui venait caresser les oreilles des Juifs. C'était un message de repentance, mes amis. Et Jésus lui-même a eu ces mêmes propos, a eu ça dans sa bouche. Repentez-vous. La même pensée qu'animait Jean-Baptiste, la même pensée qu'animait Jésus. Il n'y avait pas de différence, en fait. C'est le même esprit, en fait. Et quel doit être, alors, d'après la prophétie biblique, le message devant préparer le peuple de Dieu avant le second retour de Jésus? Certains d'entre vous me diront le message des trois anges. Et la réponse, cette réponse est en partie vraie. Mais le message des trois anges est aussi destiné au monde. Mais la question portait sur le peuple de Dieu. Quel est le message à donner au peuple de Dieu? Quel message les croyants ont besoin? Apocalypse 3, versets 14 à 22. La dernière église écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Oh, si tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Car tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et que tu ne connais pas que tu es malheureux et misérable et pauvre et aveugle et nu. Il s'agit d'un message de repentance, mes amis. Lorsque vous considérez tout particulièrement du verset 4 jusqu'au verset 17, d'un message de repentance. Certains pourraient avoir envie de vouloir entendre parler de Jésus. Je veux qu'on me parle de Jésus. Parle-moi de Jésus. Parle-moi de Jésus. Jean-Baptiste était venu préparer la voie de Jésus. Jean-Baptiste savait très bien comment préparer les gens pour qu'ils puissent entendre parler de Jésus. C'est d'abord la repentance. Parce que si on n'accepte pas le message de Jean-Baptiste, qui est le type du message du premier ange, craignez Dieu, donnez-lui gloire, on ne pourra pas accepter le message suivant, en fait. Le message de Jésus n'aurait eu aucun effet sur le cœur des Juifs si d'abord Jean-Baptiste n'avait pas prêché son message. Tout comme le message du troisième ange n'a aucun effet sur le cœur des gens qui n'ont pas au préalable accepté le message du deuxième et aussi du premier ange, très précisément. Puisque le deuxième est une simple déclaration de la condition de ceux qui ont rejeté le message du premier ange. d'Apocalypse 14, nous parlons. Nous parlons ici des anges d'Apocalypse 14, si vous ne connaissez pas. La message, elle nous dit ce qui suit dans Témoignage pour l'Église, volume 1, page 374, paragraphe 1 à 3. Le message à l'Église de Laodicée est une terrible accusation portée contre le peuple de Dieu d'aujourd'hui. Et elle cite Apocalypse 3, versets 14 à 17. Le Seigneur montre ici que le message d'avertissement que ses serviteurs doivent transmettre à son peuple n'est pas un message de paix et de sûreté. Mes amis, le message à Laodicée, qui est destiné au peuple de Dieu aujourd'hui. Cela a été écrit il y a environ plus d'un siècle. Il y a plus de siècle, elle a dit aujourd'hui. Or, il y a plus de siècle, aujourd'hui, on était sous la période de Laodicée. Et Jésus n'est pas encore revenu. Donc, nous sommes toujours sous la période de Laodicée. Donc, quel autre message voulons-nous entendre parler dans l'Église, en fait? Un message où on dit aux gens que tout va bien? Non! Le message à Laodicée, mes amis, c'est le message à Laodicée. C'est une terrible accusation. Et ce n'est pas un message de paix et de sûreté. Oh, pasteur, j'aurais aimé entendre des messages où on parle d'autre chose, ou ceci ou cela. Écrit à l'ange de l'Église de Laodicée. L'ange représente le messager de l'Église, celui qui a la charge de l'Église. Le corps enseignant, plus largement, c'est le message qu'il faut donner. Jésus a dit à ses serviteurs qui sont dans l'Église quel message qu'il faut donner. Et les fidèles serviteurs vont prêcher ce message et pas autre chose. Je dois vous dire que, et c'est arrivé à de nombreuses reprises, juste un témoignage. Il y a de ceux qui sont déjà venus me voir. Ça arrive à de nombreuses reprises pour m'influencer, pour que je puisse changer mon message. Parce que ce que je disais les concernait. Et ils m'ont encouragé à prêcher sur tel sujet, pour pas que je continue à prêcher chaque sabbat les sujets que j'abordais. Je dis bien, c'est arrivé plus d'une fois. Mais toutes les fois où ça m'est arrivé, j'ai continué de plus belle parce que je savais que je faisais la volonté de Dieu. Ce n'est pas un message de paix et de sûreté, mes amis. La seule paix, la seule sûreté qu'il y a pour nous aujourd'hui, pour vous et pour moi, elle est où? En Jésus-Christ, mes amis. Amen. Elle est en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis en paix, je suis en sûreté. Mais hors de Jésus-Christ, dans le péché, dans mon orgueil, je ne suis pas en paix, je ne suis pas en sûreté et je ne dois pas m'attendre à ce que le pasteur me prêche des messages de paix et de sûreté. Témoignage pour l'Église, volume 1, page 546, paragraphe 3. Le message à Laodicée s'applique au peuple de Dieu qui prétend croire à la Trinité, c'est ça? Qui prétend croire aux doctrines de l'Église de Babylone, aux doctrines du Conseil œcuménique des Églises. Le message à Laodicée, dit-elle, s'applique au peuple de Dieu qui prétend croire à la vérité présente. Mes amis, chers frères et sœurs, bien-aimés, vous prétendez croire à la vérité présente? Bien sûr que oui, sinon vous ne seriez pas là aujourd'hui. Ce message s'applique à vous et à moi. Ce n'est pas pour les autres, c'est pour vous et pour moi. C'est ça qu'il nous faut entendre. C'est ce message-là qu'il nous faut entendre. La plus grande partie de ce peuple est tiède et manque de zèle. Dieu désire que des hommes se mettent à l'œuvre pour corriger cet état de choses et se tiennent comme de fidèles sentinelles au poste du devoir. Il leur a donné la lumière sur chaque point pour les instruire, les encourager et les affermir dans certains cas. Néanmoins, ceux qui devraient être fidèles, loyaux, animés d'un zèle fervent, aimable, connaissant Jésus et l'aimant sincèrement, seconde l'ennemi, affaiblissant ainsi et décourageant ceux que le Seigneur emploie pour poursuivre son œuvre. Le mot tiède s'applique à cette classe de gens. Ils prétendent aimer la vérité et ils manquent de piété et de ferveur chrétienne. Ils n'osent pas se donner entièrement et courent le même risque que les incroyants, car ils ne veulent pas mourir à eux-mêmes et se conformer fidèlement aux principes de leur foi. Notez ici qu'il y a des gens, en fait, qui secondent l'ennemi, en fait, dit-elle. Dans la vérité présente, il y a des gens qui secondent l'ennemi. Pour affaiblir et décourager ce que le Seigneur emploie pour poursuivre son œuvre. Mais il est dit, le mot tiède s'applique à cette classe de gens. Ils n'osent pas se donner entièrement. Ils ne sont pas tout entiers au Seigneur. C'est pour ça. Voilà la raison, en fait. C'est que je ne me suis pas totalement abandonné au Seigneur. Vous savez, pour être un bon serviteur dans les églises nominales, qu'elles soient catholiques, protestantes, même adventiste, il faut savoir fermer sa bouche, en fait. Il faut savoir faire des compromis. Tu fermes ta bouche, tu fais des compromis, tu dénonces pas le péché, tu laisses tranquille les autres, il n'y a pas de souci. Tu auras une belle promotion. Tu vas être nommé diacre ou ancien ou pasteur ou etc., etc. Où est Jésus dans ça, en fait? Où est Jésus dans ça? Il est dehors de ça. Il n'est pas là-dedans, en fait. Jésus n'est pas là-dedans. Pour être un serviteur dans la vérité présente, par inversement et par contraste, il faut savoir aborder les sujets. Même si ça déplaît aux gens, même si vous perdez des dîmes et des offrandes, parce qu'il y a une église tout entière qui s'est retirée, parce que ce que vous dites ne lui plaît pas, vous continuez à prêcher votre message et les conséquences, vous les laissez à Dieu. C'est ça, être messager dans la vérité présente. Et pas autrement, en fait. Dans la vérité présente, les serviteurs de Dieu ne sont pas là pour faire plaisir aux gens. Et je le dis. Ne venez pas taper les épaules, figurativement parlant, des jeunes ministres de l'Évangile, dans l'espérance qu'ils vont changer leur message pour vous faire plaisir. Dans l'esprit et dans la puissance d'Élie, ils vous diront, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Prophète et roi, et on va conclure. On entame la conclusion. Prophète et roi, page 102, paragraphe 3, à 103, paragraphe 4. Quand entendrons-nous à nouveau dans l'Église résonner les messages de reproche? Tuez cet homme-là, de Samuel 12, verset 7. Ces paroles sur lesquelles on ne pouvait se méprendre furent prononcées par Nathan lorsqu'il s'adressait à David. On les entendait, je reprends, on les entend bien rarement aujourd'hui du haut de la chair. Rarement aussi les lit-on dans les journaux. Si elles étaient répétées plus fréquemment, nous verrions alors la puissance de Dieu se manifester parmi les hommes. Les serviteurs de l'Éternel ne se plaindraient plus de travailler en vain. S'ils se repentaient de leur tendance à approuver le mal et de leur désir de plaire aux hommes, attitude qui conduit à la suppression de la vérité. Notez que là, nous faisons une pause ici. Mais l'esprit de prophétie fait un reproche ici. Parce qu'on entend rarement ces choses du haut de la chair. C'est que c'est public, en fait. Et que ça concerne des gens. Ne venez pas dire qu'on est en train de faire des règlements de compte, en fait. C'est totalement hors sujet, en fait. Et les gens qui disent ça, en fait, ne sont pas inspirés de Dieu, en fait. Parce que le témoignage de Jésus dit que du haut de la chair, ça doit se faire. Il y en a que du haut de la chair, ils veulent caresser les oreilles des gens, prêcher des messages pour faire plaisir aux gens, en fait. De quel esprit êtes-vous animé quand vous dites ça? De quel esprit êtes-vous animé quand vous venez parler aux gens comme ça, en fait? Repentez-vous, mes amis. Repentons-nous si nous agissons comme ça, en fait. Ça n'a rien à voir avec l'esprit de Dieu, cette affaire. Règlement de compte. Ah, oui. Régler les comptes avec le Seigneur. La repentance, c'est ça le règlement de compte. Mais bien sûr, oui. Amen. Là, on est d'accord. Où suivons? Parce que si cela était répété plus fréquemment, combien de sabbats il y a dans le mois? 52 sabbats dans l'année. Combien de sabbats il y a dans l'année? 52 sabbats. Il y en a qui voudraient voir très peu de sabbats accordés à des prédications de ce genre, comme je prêche ce matin. Mais l'esprit de prophétie dit qu'il faut le faire plus fréquemment. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on verrait la puissance de Dieu se manifester, mes amis. Si vous caressez les gens dans leur péché et que vous ne dites rien, quand il y a l'erreur, l'apostasie qui arrive, il n'y a pas de puissance. Dieu n'est pas dans le camp. Israël est en danger. Et après, on va se plaindre. Ah, mais j'ai travaillé en vain. Et pourquoi? Pourquoi se plaindre d'avoir travaillé en vain? Parce qu'on a été infidèle. On a prêché la vérité à des gens. Mais après, les gens ne sont plus. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas vraiment convertis. On veut faire entrer des gens dans l'église. Beaucoup de gens dans l'église. Ah, il faut venir. Mais combien d'entre eux sont réellement convertis? Après, ils partent. Et après, qu'est-ce qui se passe? On dit, ah, j'ai travaillé en vain. Mais si du haut de la chair, on entendait des messages comme ça souvent, les convertis, ils allaient rester dehors, en fait. Ils n'allaient pas rentrer en Israël. C'est ça la vérité ici. Par voie de conséquence, ça ne sert à rien de dire « Ah, ils sont peu nombreux » ou « Ah, il y a du monde qui est parti », etc. Mais qui est-ce qui est parti? Des inconvertis qui sont partis. Et pourquoi il y en a peu qui restent? C'est parce qu'ils sont affermis dans la vérité, tout simplement, en fait. Et nous prions. Et il faut prier lorsqu'il y a des gens qui s'en vont. Il faut prier pour leur repentance, pour leur conversion, pour qu'ils soient affermis. Et pour qu'ils délaissent les péchés d'orgueil, les péchés d'égoïsme, les péchés d'idolâtrie des hommes. Parce qu'il y en a qui idolâtrent des hommes. Et quand il y a un homme qui fait une bêtise, on va le suivre parce qu'on l'a idolâtré. Poursuivons. Les messagers du Seigneur qui cherchent à plaire aux hommes et s'écrient « Paix, paix !» alors qu'il n'y a point de paix, devraient humilier leur cœur devant Dieu, qu'ils demandent pardon pour leur hypocrisie et leur lâcheté. Quand on prêche des messages de paix, c'est de l'hypocrisie et de la lâcheté. Ce n'est pas l'amour du prochain, poursuit-elle, qui leur fait édulcorer leur message, mais plutôt leur propre satisfaction et leur tranquillité personnelle. Le véritable amour cherche d'abord à honorer le Seigneur, puis à sauver les âmes. Je m'arrête ici. Bien souvent, c'est le contraire qu'on veut faire. On parle de l'amour du prochain. Oui, mais il faut sauver le frère. Oui, mais il faut sauver la sœur. Oui, mais il faut sauver. Mais en fait, Dieu, il passe en second plan, en fait. Et on est prêt à faire tous les compromis possibles pour pouvoir sauver la personne. Mais en fait, Dieu, on n'en a rien à faire, en fait. Non, mes amis. D'abord, on est fidèle à Dieu. Et ensuite, on voit si on peut sauver la personne. Parce que des fois, il peut s'avérer que la personne n'a pas envie d'être sauvée et qu'elle n'a plus envie de marcher dans la vérité présente telle qu'elle a été donnée à la loi et au témoignage. Poursuivons. Ceux qui possèdent cet amour n'éluderont pas la vérité pour éviter les conséquences désagréables des paroles trop franches qu'ils ont prononcées. En face des âmes qui se perdent, les ministres de la parole ne doivent pas penser à eux-mêmes, mais faire connaître aux pécheurs le message qui leur a été confié, se refusant à excuser ou à amoindrir le mal. Poursuivons. Si seulement tous les serviteurs de Dieu se rendaient compte du caractère sacré de leur tâche. Comme Élie, ils feraient alors preuve de courage. En tant que messagers du ciel, ils assument de terribles responsabilités. Il leur faut reprendre, censurer, exhorter avec toute douceur. De Timothée 4, verset 2. À la place du Christ, qu'ils gèrent comme de bons dispensateurs les mystères d'en haut, encouragent ceux qui sont fidèles, avertissent les infidèles. Les convenances mondaines ne sauraient les influencer. Les convenances mondaines ne sauraient les influencer. Il y a moins d'argent qui rentre dans les caisses du ministère. Oh, il y a telle et telle église qui a arrêté de donner la dîme. Ou il y a tel et tel frère ou soeur qui a arrêté de donner la dîme. Ça ne m'intéresse pas. C'est la vérité qui m'intéresse. Et si certains ont été choqués parce que la vérité a été prêchée, c'est que j'ai fait mon travail. Et oui. Si certains ne sont plus candidats au baptême parce que la vérité a été prêchée, c'est pas un problème, c'est pas un mauvais signe. C'est qu'elle n'est pas encore prête pour le baptême. C'est ça la vérité ici. C'est ça la vérité ici. C'est ça la vérité ici. Les serviteurs de Dieu ne mettront pas l'Église de Dieu en danger en faisant rentrer des faux frères ou en laissant des faux frères exercer leur influence. Non. 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 Parce que le jour que ça se passe en Israël, c'est qu'il n'y a plus de serviteurs de Dieu, en fait. C'est que c'est un meilleur Seigneur qui travaille pour de l'argent. Qu'ils ne se détournent jamais du chemin tracé par Jésus. Jamais. Poursuivons. Qu'ils avancent avec foi et se souviennent qu'ils sont environnés d'une nuée de témoins. On en parle de cette nuée de témoins. Hébreux 11, ceux qui ont eu la foi. Qu'ils ne parlent pas de leur propre chef, mais délivrent le message que leur a confié celui dont la puissance est supérieure à celle de tous les potentats de la terre. Ce message doit être « Ainsi a dit l'Éternel ». C'est ça, mes amis, la seule créance du serviteur de Dieu. C'est que tout ce qu'il dit est basé sur la parole et l'esprit de prophétie. Et ceux qui sont devant et qui ne sont pas contents, ils ont la bouche fermée. C'est tout. Dieu réclame des hommes comme Élie, Nathan, Jean-Baptiste, des hommes qui proclament son message sans tenir compte des conséquences qui en résultent, des hommes qui répandent courageusement la vérité, bien que cela entraîne le sacrifice de tout ce qu'ils possèdent. Combien avons-nous de serviteurs comme ça aujourd'hui? Combien avons-nous de serviteurs comme ça aujourd'hui? Je n'ai pas de réponse à vous apporter. C'est juste une question que je me pose et que je vous pose. Combien avons-nous d'hommes et de femmes comme ça aujourd'hui? Dieu ne peut employer des hommes qui, au moment du danger, alors que leur influence, leur force, leur courage sont indispensables, craignent de prendre position pour ce qui est juste. Il y a une déclaration, je m'arrête ici. Il y a une déclaration, la messagère dit que ceux qui ne comprennent pas l'œuvre que Jésus fait dans le ciel, autrement dit le sanctuaire, ils ne peuvent pas occuper la position que Dieu leur a assignée en fait. Mes amis, il n'y a pas que l'incompréhension du sanctuaire qui fait de moi quelqu'un qui est inapte à œuvrer pour Dieu. Le fait de fermer ma bouche alors que Dieu me dit de parler. Lorsqu'il y a un danger, et que mon influence, ma force, mon courage est nécessaire, mais que je ne prends pas position. Tout ça pour sauvegarder des intérêts quelconques. Dieu ne peut pas m'employer. Je ne peux pas être le serviteur de Dieu, mes amis. C'est pour cela que l'esprit qui nous a été donné, dit l'apôtre Paul à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force. Je vous pose une question. Est-ce que vous voulez être employé par Dieu? Est-ce que vous voulez être employé par Dieu? Si la réponse est oui, alors dites et faites la volonté de Dieu, quel qu'en soit le prix, et laissez Dieu s'occuper de votre vie, des conséquences de votre argent, de votre réputation, de tout ce qui va suivre. Laissez Dieu s'occuper de ça, en fait. Ayez la foi, mes amis. Ayez la foi que celui qui nourrit les oiseaux, que celui qui habille l'herbe des champs prendra soin de vous. Il réclame des hommes qui luttent fidèlement contre le mal, contre les principautés et les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre les esprits malins qui sont dans les lieux célestes. C'est à cela qu'il adressera un jour ses paroles. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Matthieu 25, verset 23. C'est à cela, mes amis. C'est pas aux autres. C'est pas aux autres qui se sont tus alors qu'il fallait parler. Ceux-là seront mis dans la catégorie des serviteurs infidèles. En conclusion, quel était l'objectif du message de Jean-Baptiste, de son ministère, de son œuvre? La réponse se trouve en Luc 1, versets 13, 16 et 17. Mais l'ange lui dit, « Zacharie, ne crains point, car ta prière est exaucée, et Élisabeth, ta femme, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. » Verset 16, « Il convertira plusieurs des enfants d'Israël au Seigneur leur Dieu. » Et il marchera devant lui dans l'esprit et avec la puissance d'Élie pour tourner les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. L'objectif du message de Jean-Baptiste, l'objectif de son ministère, la mission de son ministère, c'est de préparer un peuple au Seigneur bien disposé. Or, le message à la fin des temps, qui nous indique la bonne disposition du peuple, ce sont les commandements de Dieu et la foi ou le témoignage de Jésus-Christ. C'est pour cela que les ministères que Dieu inspire aujourd'hui préparent un peuple pour garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Ils préparent un peuple bien disposé, c'est-à-dire qu'ils vont garder les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ, mes amis. Et ce sont ces gens-là qui préparent un peuple pour la seconde venue de Jésus. Et pour faire ça, mes amis, parce qu'il y en a qui vont le dire, oui, mais j'ai préparé un peuple, moi aussi. Mais jamais tu n'ouvres ta bouche. Jamais on t'entend dénoncer quelque chose qu'il faut dénoncer. Que prépare-t-on quand on fait ça, en fait? On prépare un peuple mal disposé, mal disposé. Il faut savoir mettre le doigt sur quelque chose lorsque là, ça mérite d'être mis le doigt dessus, en fait. Même si ça dérange, en fait. La repentance. Si les gens ne se sont pas repentis et détournés de leurs péchés, lorsque Jésus revient, ils sont perdus, en fait. Donc, j'ai prêché à quoi? Ma prédication a servi à quoi? Quel peuple a résulté de l'œuvre de mon ministère? Zéro. Des pécheurs, des inconvertis. J'ai créé un groupe, une église, j'ai fondé des églises, des groupes d'inconvertis. À quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. J'ai travaillé en vain. Et moi-même, je serai perdu. Le pire, c'est que moi, avec ces gens-là, on sera perdu. C'est ce qu'on veut? C'est ce qu'on veut? Quand on commence son ministère dans le compromis, on le termine dans le compromis. Et quand on commence son ministère dans l'esprit et dans la puissance d'Élie, on le termine dans l'esprit et dans la puissance d'Élie. Par la grâce de Dieu. Et je prie. Et je le remercie. Je ne suis pas rentré dans le ministère en fermant ma bouche, en faisant des compromis. Et je ne continuerai pas dans le ministère autrement. S'il y en a qui, en cours de route, sont choqués, c'est qu'ils ne veulent pas se repentir. S'ils désertent, s'ils partent, c'est parce que les messages, qui sont des messages de vérité, ont fait leur travail. Dieu dit que ma parole ne revient pas à moi sans avoir fait son effet. Quelle que soit ma réaction, quelle que soit ma décision, la parole de Dieu a fait son effet. Ceux qui veulent des églises remplies, bondées, et que c'est leur objectif, sont de mauvais ouvriers. Et un jour, ils auront des comptes à rendre pour ça. Mes amis, la question que le Seigneur nous pose aujourd'hui, c'est quelle prédication aimons-nous entendre? Quel genre de message apprécions-nous? Qui sont les pasteurs que nous aimons? Qui sont les messagers que nous aimons? Ceux qui nous caressent l'oreille avec des enseignements qui nous confortent? Ou qui disent des choses, même quand ça dérange? Plaise à Dieu que nous puissions aimer la vérité. Plaise à Dieu, mes amis, que nous puissions accepter d'être repris, même en public, de manière à, au final, avoir une foi saine. Car l'objectif, c'est ça, en fait. L'objectif n'est pas d'écraser un individu, en fait. Mais l'objectif est de permettre à l'Esprit de Dieu, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, d'arriver chez la personne comme une épée à double tranchant pour discerner les pensées de son cœur et la pousser à la conversion. C'est ça l'objectif, en fait. De manière à ce que cette personne puisse se séparer du péché et qu'elle puisse être à Jésus. Elle puisse être à Jésus. N'est-ce pas cela que nous voulons? N'est-ce pas être à Jésus? Moi, je le veux, mes amis. Et c'est ma prière pour vous et ceci pour moi. C'est pour cela que nous sortons l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, du fourreau, et que nous l'appliquons sans ménagement. Et que nous laissons l'épée faire son travail. Quand il le faut. Puissions-nous faire partie de ceux qui se préparent pour le retour de Jésus, de ceux qui sont bien disposés en gardant les commandements de Dieu et la foi, le témoignage de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais vous inviter à invoquer la présence du Seigneur par la prière et à vous prosterner là où c'est possible avec moi. Notre Dieu, notre Père Céleste, tu nous instruis quant à ta volonté pour nous. Et tu nous dis qu'il viendra un temps où il sera trop tard pour détourner les pécheurs du sentier funeste sur lequel ils se seront engagés. C'est pour cela que tu nous demandes, en tant que tes serviteurs et tes servantes, d'agir fidèlement à cet égard et d'enseigner, de reprendre, de censurer, d'exhorter en toute douceur, de manière à pouvoir redresser et te permettre par ton esprit d'agir pour que le pécheur puisse se repentir, se convertir et se séparer de son iniquité. Car tu ne veux qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Alors, aide-nous à pouvoir accepter d'être repris et d'accepter que d'autres soient repris sans venir regimber ou dire que cela a été injuste. Et aide-nous aussi, Père, à être tes fidèles serviteurs et servantes qui, lorsque cela est nécessaire, reprennent aussi, car tu reprends, nous dit Jésus, nous dit qu'il reprend et il châtie tout ce qu'il aime. C'est pour cela que nous devons avoir du zèle et nous repentir lorsqu'on est repris, car c'est la manifestation de ton amour. C'est ainsi, Père, que tu veux que nous puissions exprimer aussi ton amour, reprendre quand cela est nécessaire. Alors, nous te demandons ta bénédiction sur chacun d'entre nous. Agis dans les cœurs. Que les cœurs en ce matin puissent être touchés. Que tout ce qui a jusqu'ici empêché à ton esprit d'agir, Père, puisse être enlevé au nom de Jésus. Il y a trop parfois, trop de sentiments en nous, trop d'émotions qui ne sont pas sanctifiées et qui t'empêchent par ton esprit d'agir dans les cœurs. Que tout cela puisse être enlevé au nom de Jésus et que la puissance de la prédication de la parole, de ta parole, puisse agir dans les cœurs. Et que des pécheurs puissent être amenés à la conversion. Même s'ils ne te confessent pas leurs péchés, même s'ils ne confessent pas leurs péchés aux autres, mais que dès maintenant, jusqu'à ce soir, après demain, qu'ils rentrent en eux-mêmes, qu'ils s'examinent, et qu'ils confessent et délaissent leurs péchés. Car on ne se moque pas de Dieu. Et on ne peut pas mentir au Saint-Esprit qui agit dans l'Église, qui parle à ton Église. Ton Église qui fait ta volonté. Alors, agis, Père. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.